La revue de presse internationale.
Bonjour Benoît Bouscarel.
Bonjour Guillaume Erner.
La situation en Angleterre est bien sûr à la une de la presse internationale ce matin.
À commencer par la situation politique. À 3 jours maintenant d'élections législatives anticipées, cruciales pour le Royaume-Uni comme pour l'Europe. De nombreux éditorialistes posent implicitement la question ce matin, est-ce un hasard si les Britanniques engagés dans ce processus législatif sont visés si durement par le terrorisme islamiste? 3 attentats en moins de 3 mois, peut-être que trop c'est trop, comme le disait hier Theresa May. Surtout, peut-être, faut-il y voir, de la part des terroristes, une tentative de déstabilisation d'un pays tout entier fragilisé par le Brexit et dont les négociations à venir avec l'Union européenne s'annoncent d'autant plus compliquées que la future majorité sera faible. Alors oui, titre le quotidien allemand Der Tagesspiegel, il est parfaitement juste que les élections soient maintenues au Royaume-Uni, comme l'a réaffirmé hier la première ministre et comme l'a demandé également son adversaire travailliste Jeremy Corbyn. Ça aurait été un fort mauvais signal que de reporter le scrutin, poursuit Der Tagesspiegel, en faisant peser le poids de la terreur islamiste sur le processus démocratique. Cela aura eu pour conséquence, finalement, de donner raison aux terroristes. Le Wall Street Journal rappelant ce matin de son côté que la dernière fois que des élections britanniques ont été repoussées, c'était en 2001, en pleine épidémie de fièvre aphteuse.
Reste à savoir si la position du futur gouvernement britannique ne sera pas plus précaire encore après les élections.
Et qu'avant, oui, alors même que ces élections aient été convoquées justement pour renforcer le gouvernement britannique, à supposer qu'elle remporte son pari jeudi, c'est ce que disent toutes les enquêtes d'opinion jusqu'à maintenant, Theresa May ne sortira-t-elle pas, quoi qu'il arrive, affaiblie de cette séquence? Elle qui a radicalement modifié son discours hier et annoncé un changement de la stratégie antiterroriste du Royaume-Uni, ne risque-t-elle pas de montrer par là des signes de fébrilité, voire de panique? Le mot panique est employé par le Guardian ce matin. La presse internationale rappelle la controverse suscitée par la décision de rabaisser le niveau d'alerte de critique à sévère juste après l'attentat de Manchester. Et le constat est fait par El País. La première ministre, d'après le quotidien espagnol, est allée beaucoup plus loin hier que ce qu'elle proposait encore il y a quelques jours en matière de sécurité, au risque d'écorner sur l'ensemble de la séquence sa crédibilité d'ancienne ministre de l'Intérieur.
Et Jeremy Corbyn, lui, ne semble pas en meilleure posture. Il suscite le doute jusque dans son propre camp, Benoît.
Le New York Times propose ce matin un reportage à Birmingham, fief travailliste, où il n'est pas rare dans le quartier de Northfield de trouver des électeurs fidèles depuis toujours au Labour, s'apprêtant cette fois-ci à changer de camp et à voter conservateur. C'est ce qu'explique un professeur rencontré par l'envoyé spécial du journal. Les gens, argumente ce témoin, n'ont plus confiance en Jeremy Corbyn. Et moi-même, je ne suis pas certain qu'il ait la personnalité et la force nécessaires pour faire un bon Premier ministre. C'est donc la personnalité autant que la ligne politique radicale de Corbyn qui semble mise en cause par son propre électorat. Lui non plus pourrait donc ne pas sortir renforcé de ces élections qui risquent de diviser encore un peu plus son camp. Et le New York Times de conclure que le pire scénario pour de nombreux cadres du Parti travailliste ce jeudi serait celui d'une perte face aux conservateurs par un écart réduit qui les contraindrait à devoir composer encore de longs mois dans l'opposition avec un chef contesté.
Et toujours sur la question du politique face au terrorisme, le New York Times propose un focus ce matin sur la possible nouvelle base arrière de l'organisation État islamique.
En Asie, et notamment aux Philippines, où la nature et le visage de l'extrémisme ont récemment changé, explique Sidney Jones dans son éditorial, plutôt inquiétant, alors que Rodrigo Duterte a consacré sa première année de présidence à une campagne démagogique et brutale contre les toxicomanes et qu'il ne semble pas en mesure de comprendre ou en tout cas de faire face à ce qui est en train de se passer dans son pays, notamment sur l'île de Mindanao, où des rébellions armées sont actives depuis le début des années 70 et où une nouvelle alerte a été donnée il y a 2 semaines quand on débutait d'intenses combats entre des dizaines de militants islamistes et les forces armées philippines dans la ville de Marawi. Une nouvelle alerte qui indique clairement que l'organisation État islamique est maintenant aussi un problème de l'Asie du Sud-Est, explique le New York Times. Elle tente de s'y implanter durablement, soutenu par une coalition hétéroclite faite d'anciens guérilleros, d'étudiants, d'universitaires, de convertis à l'islam. Depuis l'allégeance d'Abou Sayyaf à l'EI, les événements se sont accélérés, mais la stratégie du pouvoir philippin n'a, elle, pas évolué. Elle est toujours exclusivement militaire, elle repose sur la force. Alors certes, pour le New York Times, la loi martiale que Duterte a déclarée à Mindanao le 23 mai pourrait entraîner des pertes pour les islamistes, d'autres arrestations, des détentions, mais elle n'enrayera pas fondamentalement les phénomènes de radicalisation. Il faudrait une réponse plus globale qui devrait commencer par une meilleure gouvernance, sans quoi le gouvernement philippin et Rodrigo Duterte resteront les maillons faibles de la lutte contre le djihadisme en Asie du Sud-Est.